Nzamba.
Nzambira samirana.
Nous sommes mardi 28 septembre 2021. C'est l'heure de suivre le journal sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. D'abord les titres. Le monde célèbre ce 28 septembre la première journée internationale de l'accès universel à l'information. L'occasion pour la radio Inzamba de revenir sur l'état de la liberté de la presse au Burundi. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il est loin d'être reluisant. La brutalité policière, on en reparle. Un policier s'en est pris ce matin à un chauffeur de bus le rouant de coups en pleine rue à Kamenge, en mairie de Bujumbura. L'officier a fait fuir avec son arme ceux qui assistaient à la scène. Le désastre, c'est sans doute le terme qui conviendrait le mieux pour décrire l'état de l'Ekofo Nyenumba, commune Mugina en province Cibitoke. Un enseignant a pris son courage à deux mains pour dénoncer le mauvais état de l'établissement en diffusant une vidéo où il décrit l'état des lieux. Voilà pour les titres. Joséphine Jones-Mundimana est au micro. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Un commerçant de 37 ans a été tué par les inconnus la nuit de ce lundi sur la zone Chombo en commune et province de Muramvya. L'information est confirmée par le chef de zone de Chombo, Renova Matabarakiza. Il précise que ce commerçant a succombé à ses blessures pendant son évacuation à Bujumbura pour des soins médicaux. Le chef de zone Chombo a ajouté que les mobiles de cet assassinat ne sont pas encore élucidés et que les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur le criminel. Nous sommes le 28 septembre, une journée internationale dédiée à l'accès universel à l'information. C'est au moment où, au Burundi, le régime entrave le travail des journalistes et des médias depuis des années. C'est du moins le constat des Burundais qui s'expriment au micro de la radio Inzamba. Ils font remarquer qu'il est difficile dans ces conditions de permettre à la population d'avoir accès à une information fouillée et équilibrée. Suivez-les.
Même si nous sommes dans la période où les informations avec la technologie sont à jour, et nous au Burundi, il est difficile de pouvoir lire les journaux. Et même le peu de journaux que nous avons sont limités. Les journalistes sont menacés de ne pas dire ceci et ceci à cause du pouvoir qui n'accepte pas que les journalistes puissent donc fuir et produire de l'information équilibrée. C'est dur au Burundi, les Burundais n'ont pas accès à l'information comme ils devraient donc l'avoir.
Je ne reçois pas des informations comme il faut, car des journaux qui nous donnaient des informations un jour ont été brûlés, d'autres ont été bloqués, d'autres ont été fermés. Les journalistes ont été rentrés à l'exil parce qu'ils ont eu l'amabilité et le courage de dire ce qui ne va pas très bien dans le gouvernement du CNDD-FDD.
La population burundaise ne jouit plus de son droit à l'information parce que les médias, les radios qui lui donnaient des informations fiables, bien documentées, ont été suspendues. C'est notamment la RPA qui était une radio très écoutée par la population burundaise. Actuellement, les journalistes burundais sont sous une grande censure des politiciens et travaillent sous une peur, panique. Ils ne peuvent pas donner l'information telle qu'ils sont documentés.
C'est leur journée, mais l'heure n'est pas à la fête chez les journalistes burundais. Ils n'ont nullement le droit d'exercer librement leur métier. Les journalistes qui opèrent sur le sol burundais sont à chaque fois persécutés par les autorités du pays et certains éléments de la police au cours de l'exercice de leur métier. La radio Inzamba vous partage quelques exemples des journalistes persécutés. Le point avec Jean-Marie Ndabashinze.
Les journalistes burundais éprouvent énormément de difficultés à exercer et à informer sur ce qui se passe dans le pays. Des exemples récents de journalistes malmenés montrent combien le travail de journaliste n'est pas vu d'un bon œil par les autorités du Burundi. Ici, on citera le cas du journaliste de Bonesha FM, Aimé Richard Nyonguru, qui a été tabassé par des policiers et des militaires le vendredi 24 septembre à Kamenge. Il s'était rendu dans son quartier pour mener des enquêtes sur une attaque à la grenade qui avait emporté à la veille la vie de deux personnes, dont l'épouse d'un officier de l'armée burundaise. Il a été ensuite incarcéré pendant quelques heures dans un cachot de la police et son matériel confisqué. Mais les militaires et les policiers ne sont pas les seuls auteurs des actes de persécution envers les journalistes burundais. C'est aussi et surtout le cas du président de la République du Burundi. Lors d'une soirée culturelle de la diaspora proche du pouvoir le 21 août dernier, Evariste Ndayishimiye s'en est pris au journaliste Esdras Ndikumana de la RFI pour avoir révélé des informations en rapport avec la grave situation de la pandémie de Covid au Burundi.
Il y a un Burundais qui se sent très mal parce que le Covid-19 n'est pas encore apparu au Burundi. Vous l'entendez souvent sur la RFI. Ils se sentent très mal à l'aise jusqu'à se suicider car le Covid n'est pas encore arrivé au Burundi. Essayez vraiment de le conseiller. Dites-lui que les autres journalistes burundais se penchent plutôt sur des sujets du développement du pays et de la cohésion sociale. Dites-lui que les Burundais sont maintenant comme des blindés. Un Burundais qui se permet de dire que les hôpitaux sont saturés suite à l'augmentation des cas de Covid, c'est une honte. Il devrait y avoir un Burundais qui le conseille d'arrêter de mentir. C'est le seul journaliste burundais qui ne rêve que du mal pour le Burundi.
Cette liste des journalistes burundais torturés et persécutés par les autorités du pays n'est pas exhaustive. On n'oubliera pas toutefois de mentionner Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu, porté disparu au Burundi depuis plus de 5 ans, et de Christophe Nzabahizi de la RTNB, tué en même temps que toute sa famille décimée en 2015 au quartier Ngagara par la police burundaise. Nous ne saurons terminer sans citer plus de 100 journalistes burundais contraints à l'exil par le pouvoir en place au Burundi.
De son côté, l'Union burundaise des journalistes, UBJ, condamne énergiquement ces agissements des autorités du Burundi visant la persécution des journalistes. Dans un communiqué qu'elle a sorti à l'occasion de cette journée, cette organisation trouve que les premières victimes de cette persécution est le public qui, par ce fait, n'est plus informé comme il devrait. L'UBJ encourage par ailleurs les journalistes à poursuivre leur noble mission d'informer en dépit des obstacles, particulièrement en cette période où l'insécurité est plus récurrente que jamais et où la pandémie du Covid-19 fait des ravages dans le pays. À l'occasion de cette journée internationale de l'accès universel à l'information, la directrice générale de l'UNESCO estime que cette journée devrait mettre en lumière le besoin d'informations précises et fiables pour le public, à l'heure où les pays du monde entier luttent pour vaincre la pandémie de Covid-19. Suivez Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.
L'accès à l'information, le droit des citoyens de demander et de recevoir librement des informations d'intérêt public sont aussi le socle d'autres droits, la liberté d'expression, l'éducation, l'égalité entre les genres, l'exercice libre et éclairé de la citoyenneté. Et pourtant, il existe de profondes inégalités dans cet accès à l'information. Pour ceux qui vivent dans des zones plus isolées, pour ceux, et notamment les populations autochtones, qui n'ont pas accès à l'information dans leur langue, et aussi pour près de la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet, dont beaucoup de femmes et de filles. S'informer devient une difficulté de tous les jours quand ce n'est pas, dans ce cas, une impossibilité pratique. Dans le même temps, trois menaces d'une nature différente pèsent sur l'accès à l'information et sur la liberté d'expression. C'est tout d'abord la sécurité physique et sanitaire des journalistes qui est en cause quand de trop nombreux professionnels de l'information paient de leur vie l'exercice libre et indépendant de leur métier. Ainsi, pour reprendre le début de la pandémie, entre le 1er mars et le 31 mai dernier, l'ONG suisse Presse Emblème Campagne a enregistré pas moins de 127 décès de journalistes dans 31 pays, les deux tiers d'entre eux étant alors en service. C'est aussi la capacité des journalistes à exercer leur profession de manière libre, indépendante qui peut être menacée quand les gouvernements altèrent, dans le cadre de la pandémie, les lois ou les politiques publiques existantes. Le Centre pour le droit et la démocratie a ainsi estimé que plus de 40 pays avaient récemment pris des mesures ayant eu des conséquences négatives pour l'accès à l'information. En cette journée internationale, l'UNESCO voudrait donc appeler les gouvernements à ne pas opposer liberté d'expression et sécurité sanitaire, car sacrifier la première à la deuxième, c'est finalement risquer de se priver des deux à la fois.
Inzamba. Parlons éducation pour la suite de ce journal. Trop, c'est trop. Les enseignants crient leur ras-le-bol et alertent sur les conditions désastreuses de travail des écoliers de l'école fondamentale de Nyenumba sur la colline Maroumou, commune Mugina, en province Cibitoke. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un homme, sans nul doute enseignant de l'établissement, décrit avec force détail le manque de chaises dans les classes. Il lance un appel aux parents et au gouvernement pour le venir en aide. Les détails avec Beni Akselakana.
Le regard de l'homme en dit long sur sa détresse, et le temps traduit la douleur qu'il ressent en faisant la présentation des lieux. Il se tient debout dans une salle qui tient lieu de classe. En guise de chaise, de simples planches éparpillées ici et là et posées sur des briques, des cailloux ou des morceaux de troncs d'arbres. Le sol, en terre, est cabossé, tandis que les murs décrépits sont faits de briques en terre, entre lesquelles on entrevoit des dizaines de trous de la base au sommet. Les places réservées aux fenêtres et à la porte sont vides. Selon l'homme, le problème est général dans cette école.
Ici, nous avons 6 classes de la première année jusqu'en 6e, mais presque toutes les classes n'ont pas de bon pupitre. La classe de 4e année dispose de 5 pupitres presque déclassés. Au moins 5 écoliers s'asseyent sur un même banc pupitre. Et la situation est similaire dans les classes de 6e, 3e et 2e année. Nous prétendions convoquer une réunion des parents pour leur demander leur contribution. Sinon, sur notre école de Nyenumba, nous sollicitons l'intervention de l'État.
La situation de cette école est loin d'être une exception. Des images d'écoles en manque pratiquement de tout dans plusieurs coins du pays circulent sur les réseaux sociaux. Ce qui contraste avec les propos du président Evariste Ndayishimiye devant l'Assemblée générale des Nations unies, où il a affirmé jeudi de la semaine dernière que l'éducation au Burundi a connu de gros progrès.
La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore pu interroger le ministère de l'Éducation pour savoir s'ils sont au courant de cette situation et ce qu'ils comptent faire. La joie est immense depuis ce mardi chez les parents de l'école privée Sunrise School de Rumonge. Le ministère de l'Éducation vient de lui octroyer l'autorisation de fonctionner officiellement après 3 semaines de suspension. Les parents demandent à la direction de cet établissement de se mettre à l'œuvre pour rattraper le temps perdu. Josine Kazé nous en dit plus.
Les parents dont leurs enfants fréquentent l'école Sunrise dans la ville de Rumonge se sont réveillés tôt ce matin pour accompagner leurs enfants à l'école. C'est exactement après 3 semaines de fermeture. Une décision qui avait été prise par le ministère de l'Éducation, c'est la satisfaction du côté des parents qui regrettaient que leurs enfants restent à la maison. Ils demandent aux responsables de l'école de se conformer dans les meilleurs délais aux exigences du ministère.
C'est vrai, aujourd'hui, c'était la grande joie pour nous, les parents, de voir nos enfants retourner à l'école après 3 semaines. On était vraiment très fatigués de voir nos enfants inoccupés et parfois même déambulés. Nous remercions vivement la décision de Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation. Nous demandons à la direction de l'école de se conformer très rapidement aux exigences du ministre.
Vous saurez que l'école Sunrise est classée parmi les meilleures écoles de Mongé qui réussissent les examens donnant accès dans les écoles d'excellence.
Éducation toujours, et nous faisons un tour en République démocratique du Congo où les Burundais éprouvent d'énormes difficultés. Depuis la décision du ACR de suspendre le paiement des frais de scolarité pour les enfants réfugiés, les abandons scolaires sont devenus nombreux. Même ceux qui parviennent à terminer leurs études n'obtiennent pas de documents de fin d'année parce qu'ils accusent beaucoup d'impayés. Blaise ni Djimbere.
La mesure de suspension de l'aide du RACER pour soutenir la scolarité des élèves réfugiés burundais à République démocratique du Congo a été prise en février de cette année. Depuis lors, le RACER ne paie plus le minéval pour les élèves. Les conséquences sont nombreuses car les élèves abandonnent l'école et adoptent de mauvais comportements. C'est dans cette logique que la coalition burundaise des défenseurs des droits des réfugiés vivant dans des cas de réfugiés, CBDH, VICA, a écrit une lettre ouverte aux représentants du RACER en République démocratique du Congo pour interpeller à réagir en faveur de ses enfants. De Paul Chirangabo, il est le vice-président de cette coalition.
Nous avons adressé cette correspondance au représentant du RACER au niveau du Congo pour lui montrer les conséquences causées par la décision prise par le RACER de suspendre les frais scolaires pour les enfants des réfugiés burundais en République démocratique du Congo. Les conséquences sont nombreuses. Par exemple, plusieurs enfants ont abandonné l'école parce que les parents ne sont pas capables de payer les frais d'or des enfants. Certaines familles ont dû prendre la décision de rentrer malgré les insécurités qui persistent au Burundi parce que c'est très difficile pour les parents de rester dans le camp de réfugiés avec les enfants sans avenir.
Léopold Chirangabo trouve plutôt que c'est une stratégie d'irracer pour les rapatrier par force, puisqu'il connaît les textes de loi qui régissent les réfugiés.
Le RACER sait déjà que les réfugiés ne sont pas capables de payer les frais scolaires. Prendre alors une décision pareille, c'est soutenir le rapatriement forcé. Nous avons rappelé le RACER qui doit respecter les conventions relatives aux droits de l'enfant de 1989 et la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Nous prenons cette occasion pour exhorter les pays partenaires du RACER de ne pas abandonner ces enfants réfugiés parce que l'éducation est un élément clé pour la réponse à la crise internationale.
Une étude faite par le RACER en 2019 montre que l'accès à l'éducation au-delà de l'école primaire demeure un problème majeur. En effet, seulement 20% des enfants réfugiés burundais sont scolarisés.
Le conducteur d'un minibus a été violemment battu par un policier le matin de ce mardi. C'était sur la première avenue de la zone Kamenge en commune Nahangwa, dans la municipalité de Bujumbura. La population des environs est venue assister à la scène, mais le policier a sorti son arme, menaçant de tirer. À l'origine, le minibus aurait légèrement heurté la camionnette. Les habitants de Kamenge qui ont assisté à la scène demandent aux instances habilitées de sanctionner le policier. Ils indiquent que les fautes commises sur la voie routière sont réglées autrement que par des bastonnades ou des menaces de mort. Plus de détails avec Vanessa Muhiteka.
Les habitants de Kamenge et les usagers de la route Kamenge-Kinarma font savoir que le tumulte a eu lieu vers 6h du matin. Un minibus de transport en commun se serait cogné à une camionnette de la police. Des sources sur place font savoir qu'après l'accident, le policier qui conduisait la camionnette est sorti de son véhicule et a tout de suite tabassé le chauffeur du minibus. Gifre, coups de pied et boxe. La camionnette policière est immatriculée à 398 APN.
Imodoka y'igipolisi yari ipikapu yera ifise inomero ndangamuduga a
Cette camionnette policière était de couleur blanche et immatriculée à 398 APN. Nous avons assisté à un chauffeur du minibus en train d'être battu par un policier. Des gifles, des boxes et judo jusqu'à ce que celui-ci tombe par terre. Il y avait trop de monde. Il continuait à le frapper sérieusement. Ce qui nous étonnait, c'est comment il battut cet homme comme un serpent.
Quand était déjà présente une foule nombreuse, certains habitants ont eu le courage d'aller demander au policier pourquoi il frappait ce chauffeur. Ce policier se serait senti menacé et rentré dans son véhicule pour sortir son fusil. Seulement, ce qui était là de vider les lieux. Cette dernière demande qu'il y ait des enquêtes minutieuses pour que ce policier, une fois fautif, soit puni conformément à la loi parce que les accidents de roulage ont une réglementation qui est nettement différente à cette brutalité que ce policier a affichée.
Ce policier est allé dans son véhicule et a fait sortir son fusil, baïonnette au canon. Même si le chauffeur du minibus bus aurait heurté la camionnette, il y a une réglementation de la sécurité routière. Il n'est nulle part prévu des bastonnades, de judo ou des coups de gifle. Les agents de la police font le constat des faits et donnent des procès-verbaux pour la suite des procédures. Nous demandons à la police de sécurité routière, aux responsables policiers en général et aux instances judiciaires de faire des enquêtes sur l'incident. Et si le policier est fautif, qu'il soit puni. Sinon, si la raison revenait toujours plus fort, toutes les autres lois deviendraient automatiquement nulles.
La rédaction de la radio Inzamba Agatika Kawi n'a pas encore eu la version de Pierre Moulkié, porte-parole du ministère ayant la sécurité publique, dans ses attributions pour éclairer l'opinion sur ce comportement de ce policier conducteur de la camionnette.
C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Agatika Kawi pour la production de ce journal. Un grand merci à vous également, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.